20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité, ceux qui nous ont marqués à tout jamais. Ce soir, notre jour J est le 20 octobre 2011. Muammar Kadhafi meurt à Sirte, lynché par une foule de rebelles, 42 ans après un règne sans pitié et sans partage en Libye. Nous sommes le 20 octobre 2011. Le tyran n'est plus qu'une dépouille ensanglantée, un corps traumatisé par le lynchage, dont on peine à imaginer qu'il ait un jour porté l'âme d'un dictateur capable de mener son peuple à l'agonie. Muammar Kadhafi est mort à Sirte, en Libye, dans son fief natal, dernier rempart des loyalistes, dans lequel il s'est réfugié fin août, quand la capitale Tripoli est passée aux mains des rebelles révolutionnaires. Acculé dans une maison de pierre au milieu d'une ville dévastée par les bombardements, menacé par les tirs et une frappe aérienne de l'OTAN, Kadhafi, son fils Mouattassem et une poignée de fidèles avaient organisé la fuite. Ils devaient partir ce matin vers 4 heures pendant le sommeil des rebelles, mais ils se mettront finalement en marche plus tard, trop tard. Ils sont une quarantaine de véhicules à prendre la direction du sud-ouest. Le dictateur se trouve à l'arrière du convoi. Très vite, les forces aériennes de l'OTAN repèrent la colonne de véhicules sans savoir encore qu'il s'agit de Kadhafi. Le premier bombardement touche 3 voitures et brise le cortège en 2. Une moitié part au sud et l'autre à l'ouest, espérant regagner le désert. Muammar Kadhafi ne le sait pas encore, mais il se dirige tout droit vers le bastion le plus aguerri et le plus radical de la rébellion libyenne. Pour l'heure, il est blessé à la tête et il saigne abondamment. Quand il sort de sa voiture, celui qui s'est autoproclamé en 1974 le guide de la révolution libyenne n'est déjà plus un dictateur redoutable. D'autant que son propre fils, Mouattassem, et certains de ses fidèles l'abandonnent en courant. Kadhafi se dirige vers une ferme isolée en s'appuyant sur Mansour Dos, son chef de sécurité, mais les rebelles arrivent au loin et ouvrent le tir. Une seule solution, le repli dans une buse de drainage qui passe sous la route. C'est là qu'il sera trouvé par le jeune rebelle Omran Chaban, 21 ans, étudiant en électricité qui n'en croit pas ses yeux. Il le fait sortir du tunnel, il le désarme et lui vole sa bague en or. Muammar Kadhafi est fini, le dictateur est entre les mains des révolutionnaires. Il n'avait plus l'air d'avoir toute sa tête, se souviendra Mohamed Lawek, le chef du groupe rebelle qu'il évacuera en voiture. La suite reste floue et mystérieuse. Elle a échappé depuis à toutes les explications malgré les enquêtes menées sur la mort de Kadhafi. Mais restent en mémoire les images d'un homme lynché, recroquevillé sous la violence d'une vengeance aveugle, des touffes de cheveux arrachées sur une tête vacillante et un visage tuméfié. On rapportera aussi des sévices que les mots peinent à décrire, à l'image d'une colère phénoménale. « Il faut comprendre », expliquera encore Mohamed Lawek. Ça fait 42 ans qu'il est pire que le diable. Pour nous, ce n'est même plus un homme. Portrait ce soir d'un dictateur qui aura voulu régner sur un pays divisé par les rivalités ethniques et tribales, imposant son idéal de nation unie en dépit des réalités géopolitiques, plantant sa tente bédouine à Bruxelles ou dans le parc de l'hôtel Marigny à Paris quand il sera reçu par le président Nicolas Sarkozy contre l'avis de 61% des Français. Puis devenu ennemi public numéro un au moment du printemps arabe qui aura vu la chute de nombreux régimes totalitaires. Exploration aussi d'une personnalité complexe, excentrique, coquette, accro à la cocaïne, à la chirurgie esthétique et au sexe violent. Dans un instant, le journaliste et enseignant à Sciences Po, Vincent Hugeux, sera notre invité jusqu'à 21h. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Bienvenue sur RTL et dans Jour J, nous sommes en direct ce soir et l'on remonte dans le temps. Nous sommes donc, je viens de vous le dire, le 20 octobre 2011. Vous vous souvenez forcément de ces images choquantes du lynchage du dictateur libyen Muammar Kadhafi. Tombé aux mains des rebelles, il périt sous les coups à l'image du besoin de vengeance d'un peuple opprimé pendant 42 ans.
La mort du colonel Kadhafi, confirmée il y a quelques minutes par les nouvelles autorités libyennes. La nouvelle de l'arrestation puis de la mort de l'ex-dictateur libyen en fuite depuis le 23 août avait été donnée en début d'après-midi par un commandant du CNT. C'était la seule source. Cette fois donc, c'est fait. Le CNT confirme la mort de Kadhafi.
Vincent Hugeux, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, enseignant à Sciences Po et vous êtes auteur du livre Kadhafi, sorti en poche aux éditions Tempus Perrin, que l'on peut évidemment conseiller à nos auditeurs. Je viens de raconter d'ailleurs la mort de celui qu'on appelait également le guide. Et pourtant, il en existe beaucoup, beaucoup de versions. La vérité n'a d'ailleurs jamais véritablement été établie. On va y revenir ensemble. Est-ce que ce que je viens de raconter à nos auditeurs est la stricte vérité ou est-ce que vous avez justement certaines nuances à apporter ?
Alors, une toute petite nuance sur le rôle joué jusqu'au bout par l'un de ses fils, le fameux Moatassem, qui est un militaire, qui est d'ailleurs le commandant de la région de Sirte, et qui, selon les témoignages que j'ai recoupés, faisait vraiment partie du dernier carré. Et d'ailleurs, lorsque Moatassem lui-même est arrêté, dans cette fameuse séquence crépusculaire de la buse, de cette conduite de drainage dans laquelle Kadhafi croit trouver un refuge illusoire, eh bien, il défie ses geôliers à tel point que lui est abattu d'une balle dans la nuque et on les retrouvera tous les deux, on y reviendra, étendus sur des matelas souillés dans un marché de gros de la ville de Misrata, côte à côte. Et d'ailleurs, selon toute vraisemblance, ils ont été enterrés dans un lieu tenu secret pour éviter d'en faire un site de pèlerinage, aux côtés d'un autre fidèle qui s'appelle le général Jaber.
Alors, pourquoi est-ce qu'il existe autant de versions, justement, de cette mort qui nous a tous marqués, choqués de par les images de lynchage que l'on a pu voir en 2011 Pourquoi ? Est-ce qu'on construit quelque part aussi une funeste légende ? Il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé.
À mon sens, d'abord parce que Kadhafi est un personnage éminemment romanesque jusque dans l'abjection et les outrances. Et que donc un personnage de cette nature ne peut pas avoir une fin paisible. Il suscite énormément de fantasmes et vous avez aussi beaucoup de gens qui ont des comptes à régler, soit avec lui, soit avec eux-mêmes. Et par exemple avec l'étonnante complaisance, la mansuétude qu'ils ont pu lui témoigner. Il suscite, et on le sent très bien dans l'extrait qui a été diffusé, une sorte de rage mêlée d'impuissance. C'est-à-dire que les Libyens eux-mêmes se disent qu'au fond, ils sont coupables d'avoir supporté cette éprouvante tyrannie pendant tant d'années sans s'être révoltés. Et donc dans cette rage que l'on met, dans ces images d'une violence incroyable.
Inouï.
Moi, je me suis non pas amusé, car ça n'était pas véritablement drôle, mais je me suis astreint à mettre bout à bout toutes les captations vidéo de téléphones portables pour essayer de reconstituer cette sorte de film gore en pointillé. Et dans cette rage, dans cette hargne, il y a beaucoup aussi de la frustration, de la volonté d'avilir celui qui vous a soumis pendant tant d'années et que vous n'avez pas osé affronter à l'époque. Donc, beaucoup de versions, oui, parce que c'est vrai que au-delà de cette dimension psychologique, quasiment psychanalytique, vous avez aussi des incertitudes factuelles. Par exemple, si l'on s'en tient aux versions les plus fantaisistes qui circulent, vous avez encore aujourd'hui d'éminents personnages de la Ve République qui sont persuadés que Muammar Kadhafi a été liquidé par un agent de la DGSE, le renseignement extérieur français, ou par un commando des forces spéciales. Bon, que la France ait accueilli avec un lâche soulagement sa liquidation, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Mais moi, personnellement, encore une fois, dans mes recherches, je n'ai pas trouvé d'éléments factuels qui permettent d'étayer cette hypothèse.
Il est mort de quoi ? D'une balle dans la tête ?
Alors, il y a, à l'évidence, un personnage qui est déjà un quasi-cadavre après avoir été molesté, comme vous l'avez décrit. Il est frappé, je ne donnerai pas de détails organiques, mais il subit un avilissement personnel et de nature sexuelle, ce qui n'est pas non plus fortuit. Car, on y reviendra sans doute, c'est aussi un personnage qui a soumis, avili par le sexe. Et par ailleurs, la question qui se pose, c'est est-ce que quand il est jeté sur la plateforme du minibus qui va le conduire jusqu'à Misrata, précisément, est-ce qu'il est déjà mort ? Est-ce qu'il est à l'agonie ? Une des thèses, c'est qu'il aurait été achevé à ce moment-là. Alors, on le sait, la défaite est orpheline, la victoire à 1000 parents. Donc, vous avez des tas de jeunes rebelles, les Touars, comme on les appelle, qui revendiquent ce régicide, en quelque sorte. Bon. Mais l'une des hypothèses, c'est qu'effectivement, l'un de ces jeunes rebelles, et effectivement, ce sont ce qu'on appelle des katibats, c'est-à-dire des brigades de Misrata, qui est sans doute la ville la plus hostile à Kadhafi pour d'assez bonnes raisons. Moi, je me souviens être allé à Misrata à bord d'un cargo qui ne tenait que par la rouille, 42 heures de mer à l'époque où la ville était assiégée par l'Est, l'Ouest et le Sud, et les Misrati, donc les habitants de Misrata, avaient dit à l'époque, le jour où on l'a, vous verrez ce qu'on va lui faire subir. Donc il tombe effectivement, comme vous l'avez raconté tout à l'heure, sur effectivement ce qu'il y a de plus, combatif, pugnace,
oui, le pire cauchemar
hargneux à son égard. Voilà. Ouais. Et donc, voilà, toute la question est de savoir, est-ce qu'il meurt à ce moment-là? Est-ce qu'il est abattu dans... Le minibus en question, mais en fait, en tout cas, ce qui est certain, et ça on le voit dans les images, c'est que l'homme qui est acheminé vers Misrata, il est déjà à l'article de la mort, il a été saoulé de coups, vous l'avez dit, on lui arrache des touffes de cheveux. L'un des surnoms que lui donne d'ailleurs dans l'argot dialectal libyen ses opposants, c'est le vieux frisé, avec une, une connotation très très péjorative et moqueuse. Et donc aussi, l'arrachage des cheveux, là encore,
c'est
n'est pas anodin. Tout ça a du sens dans ce tumulte, dans ce chaos invraisemblable. Il y a des gestes qui ont une portée symbolique assez prégnante.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Voilà, Jour J qui se poursuit ce soir. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous où se mêlent souvenirs et connaissances. Personne n'a oublié le lynchage de Muammar Kadhafi. Il est mort à Sirte, son fief natal en Libye, à l'âge de 69 ans. Avant de revenir, au tout début avec vous, Vincent Hugeux, merci d'être notre invité jusqu'à 21h. Parlez-nous de la personnalité de Muammar Kadhafi.
Kadhafi, c'est un fils de bédouin.
Ouais.
Et c'est lui-même profondément un bédouin. Il le restera jusqu'à son dernier souffle.
Il est vraiment né sous une tente en peau de chèvre.
Selon la légende, mais aussi selon des témoignages que j'ai pu recouper, il est effectivement né sous une guitoune en peau de chèvre, vraisemblablement à 30 km environ au sud de Sirte, son fameux bastion côtier. Et c'est en plus un bédouin qui est issu d'une tribu, d'un clan minoritaire et même mineur. Et si on ne comprend pas le génie qui est le sien des alchimies tribales, qui sont vraiment, en quelque sorte, l'ossature sociale de ce pays, on ne comprend pas cette intelligence politique qui lui permettra, pas seulement par la coercition et la violence, de tenir ce pays pendant 42 ans. Alors c'est un petit garçon qui très vite sort du lot. Il est remarqué par un prof itinérant, donc il va faire des études, et deuxième ressort, très vite, il se heurte au mépris social des élites côtières. Lui, le bédouin, mal habillé, avec l'accent rugueux, etc. Et ça va évidemment, chez lui, nourrir une sorte d'appétit de revanche également. Revanche sociale et politique, fasciné par le fameux raïs égyptien Gamal Abdel Nasser, dont il se veut le disciple le plus zélé. Et il va jusqu'à brandir une radio dans la caserne où il est assigné. Dès qu'il y a un discours prononcé sur la voix des Arabes sur la radio égyptienne, pour être certain que tout le monde... Il apprend par cœur les discours de...
Il est obsédé par le système égyptien.
Y compris des manifs contre la France, contre les essais nucléaires de la France en Algérie. Il organise, en tant que leader de son petit groupe, des funérailles symboliques de Patrice Lumumba, le premier ministre congolais liquidé par la CDI, les CIA, les services... Donc, je veux dire, c'est un révolutionnaire musulman. C'est-à-dire qu'il veut réaliser une synthèse entre la tradition islamique et la révolution. D'ailleurs, et ce qui est aussi passionnant, c'est que très vite, c'est quelqu'un qui considère que, d'une certaine manière, son bac à sable libyen est un peu étriqué pour sa vision planétaire. Son fameux livre vert,
dont on a fait
des colloques jusqu'au bout du monde, trois tomes bien minces d'ailleurs, moi je l'ai lu et relu. Très franchement, quand je pense que des universitaires capés se sont vautrés dans l'admiration pour cette sorte de galimatias, cette sorte de bréviaire à la fois confus, etc., c'est extraordinaire. Kadhafi est persuadé qu'il est l'homme qui peut transcender le vain combat entre le communisme et le capitalisme. Et que ce qu'il appelle donc la troisième théorie universelle, ça peut être appliqué partout. Et il explique par exemple, quand il visite la France en grève à l'époque, mais si vous appliquiez les normes sociales que je décris, vous n'auriez pas ces mouvements sociaux chez vous. Suivez-moi, vous verrez.
Mais il est timbré ou...
Alors, ça c'est une question que j'ai par exemple posée à Valéry Giscard d'Estaing, qui lui en était à peu près convaincu. Je ne le suis pas là-dessus.
Bah non.
Parce que pour moi, il avait... l'implacable cohérence de sa démence. C'est-à-dire qu'on ne dirige pas le rafio libyen avec sa complexité, avec le fait tribal que j'évoquais à l'instant, si on est juste un taré. Donc, il y avait des éléments de démence chez lui, dans la violence, dans sa sexualité, dans cette propension à humilier, etc., à asservir. Mais simplement réduire Kadhafi à, dans le meilleur des cas, un doudingue, me paraît faire bon marché de cette forme de génie politique, au sens de Montesquieu, qui lui aura permis de tenir la boutique.
Comment s'est faite son ascension ?
Alors, il a l'intuition que cette monarchie, puisqu'à l'époque, la Libye est une monarchie, c'est le roi Idriss Ier, premier et dernier d'ailleurs, parce qu'il n'y en aura pas d'autres, eh bien, c'est une sorte de monarchie à bout de souffle, avec un roi plutôt contemplatif qui adore aller prendre les eaux en Turquie et en Grèce, et qui d'ailleurs est absent au moment du coup, et il monte un réseau, patiemment, en sillonnant la Libye au volant de sa coccinelle bleue, qui figurait d'ailleurs dans un musée au temps de sa splendeur. Et c'est là, tout d'un coup, il y a, en août 1969, en quelques heures,
coup d'État,
un pouvoir qui tombe comme un frimur et que personne n'a vraiment envie de défendre jusqu'à la mort.
Voilà, sans verser une goutte de sang, et il en aura versé évidemment des fleuves bien plus tard. Personnalité très très singulière aussi, alors vous le disiez, dans sa sexualité, accro à la violence, accro à la cocaïne.
C'est un personnage qui est tout le temps en outrance. Dans un chapitre que j'ai intitulé « Ton corps m'appartient », j'essaye de comprendre les ressorts de ce rapport à la femme. Et sans faire de psychanalyse à trois dinars, il y a des éléments dans sa jeunesse, dans son enfance, dans le fait qu'il a été élevé par un gynécée, son père berger, qui emmenait paître le maigre troupeau, était très absent. Il a été élevé par sa mère, ses sœurs, etc. Il a peut-être subi lui-même, d'ailleurs, des violences sexuelles dans son enfance. Et là aussi, on a le registre de la revanche. Parce que pour lui, le sexe, c'est un instrument de pouvoir. J'avilie aussi la femme de mon général. Ou l'épouse de tel chef d'État africain, c'est une manière pour moi de manifester mon emprise. Donc le sexe, comme le terrorisme, comme la violence, sont pour lui des instruments de pouvoir et de préservation de son emprise.
Est-ce que vous pouvez me dire en une minute comment il est devenu ennemi numéro un à la fin des années, au début des années 80 ?
Parce qu'il était le bienfaiteur universel des terroristes de tout poil.
Voilà.
C'est-à-dire que vous étiez un Kanak, un rebelle indien d'Amérique, un Corse, un Irlandais de l'IRA, etc. Vous alliez vous entraîner dans les camps en Libye, il vous finançait, il vous épaulait, parce que tout ce qui était ennemi de l'impérialisme américain exécré était son allié.
On se retrouve dans un instant pour la suite de Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Voilà, Georgie qui revient ce soir sur la vie d'un pays, la Libye, sous la dictature du caïd. Entendez donc le guide de la révolution, tel qu'il voulait qu'on l'appelle, le colonel Kadhafi, mort lynché par les rebelles le 20 octobre 2011. Vincent Hugeux, merci d'être notre invité. Je relevais il y a un instant hors antenne le fait que, en préparant cette émission, j'ai été très surprise de voir que, je dirais quelque part, pardon de le dire comme ça, mais à ses débuts, Kadhafi portait d'ailleurs parfois quelques causes nobles, et notamment vis-à-vis des femmes. C'est-à-dire que si d'un côté, il était dans l'avilissement auprès du sexe féminin, par ailleurs, il s'est élevé contre le mariage forcé, il a été pour l'instruction des femmes en Libye. Comment on explique ce paradoxe ?
C'est vraiment le caïd paradoxal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va, au fond, asservir et avilir celles, les femmes, qu'il prétend libérer. Et d'ailleurs, s'il est aussi ce moderniste, c'est qu'il veut briser le carcan de la transition qui, selon lui, est en train de tirer la Libye vers le passé. Et de la même manière, c'est un pieux musulman qui va défier les oulémas, c'est-à-dire les docteurs de la loi traditionnelle, qui le déteste, qui le méprise, parce qu'il prétend imposer une lecture plus moderne des normes islamiques.
Au début des années 2000, alors qu'il avait perpétré des attentats quelques années plus tôt, d'ailleurs tuant deux GIs américains, à tel point que Ronald Reagan donc avait ordonné un raid contre lui, raid avorté.
Dont il sort miraculeusement en 1986, c'était une discothèque à Berlin qui s'appelait La Belle, riposte massive, écrasante. Il en sort, et là, on entre dans le cycle, je dirais, du règlement de compte perpétuel avec le Yankee, Reagan et successeur.
Au début des années 2000, donc, Kadhafi revient, après avoir été l'ennemi public numéro un, revient, je dirais, quelque part en grâce, et réussit l'exploit de restaurer son image à l'international. Mais c'est dingue, parce que c'est très peu de temps après, finalement. Et il se range dans la lutte antiterroriste, et il remet même les clés de son programme nucléaire. Il devient fréquentable. Comment est-ce qu'on explique ça ?
Alors, d'abord, il est traité par ses partenaires occidentaux avec les égards dus à son pactole pétrolier. Ne l'oublions jamais. Ensuite, et c'est là où je reviens à la thèse de l'intelligence politique, au-delà de la folie apparente, il comprend que sa survie passe par là. Donc il lâche les terroristes, il se prétend le meilleur allié de l'Occident contre Ben Laden, il lance un mandat d'arrêt contre Oussama Ben Laden, donc le fondateur de la mouvance Al-Qaïda, et il dit aux Occidentaux, vous avez besoin de moi, y compris pour contenir d'éventuels afflux de migrants en Méditerranée, ce qui pour le coup était assez visionnaire.
Oui, et en même temps, on se dit que tout le monde a la mémoire courte là-dedans, et voilà. En 2004, il est invité par la Commission européenne. Le 10 décembre 2007, il est reçu à Paris pendant 5 jours. Objectif, signer des contrats militaires, une coopération nucléaire. Il va rencontrer le MEDEF, le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Bernard Accoyer, et donc le président Nicolas Sarkozy. Une visite qui a été controversée, qui a choqué l'opinion. Je disais, 61% des Français s'étaient élevés contre cette venue. L'opposition, bien évidemment, et la toute récente secrétaire d'État aux droits de l'homme, Ramayad, qui ne cache pas son désaccord, souvenez-vous.
Même si l'Élysée parle de visite officielle et non de visite d'État, nuance, la secrétaire d'État aux droits de l'homme trouve des limites à la réelle politique, en particulier en ce lundi, journée des droits de l'homme.
Personnellement, je me retrouve avec une journée des droits de l'homme sur les bras et Kadhafi sur le tarmac d'Orly. Donc pour moi, c'est un problème. Mais c'est comme ça. Voilà, ça doit être un oubli. Il serait indécent que cette visite se résume à la signature de contrat.
Elle ajoutera dans une interview au Parisien, le colonel Kadhafi doit comprendre que notre pays n'est pas un paillasson sur lequel un dirigeant terroriste ou non peut venir s'essuyer les pieds du sang de ses forfaits. La France ne doit pas recevoir ce baiser de la mort.
Alors, d'abord, ça lui vaudra une avoinée mémorable de la part de Claude Guéant, le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, puis de Sa Majesté Nicolas lui-même. Mais moi, je me souviens que quelques mois auparavant, j'étais à 2 mètres d'elle, donc à Tripoli, lorsque Sarkozy improvise une escale sur la route de son premier voyage initiatique africain. Et l'escale a pour mission d'obtenir, en tout cas de rafler les lauriers de la libération de ces fameuses infirmières bulgares.
Alors, racontez-nous les infirmières bulgares.
C'est une histoire très très révélatrice de la psyché kadhafienne. Vous avez un hôpital pédiatrique à Benghazi, la grande ville de l'Est, qui sera d'ailleurs le noyau de la rébellion. Et les morts suspectes de plusieurs centaines d'enfants. Le régime accuse ces infirmières bulgares et un médecin palestinien qui travaille à leur côté d'avoir sciemment inoculé le virus du sida à ces enfants. Ça ne tient absolument pas la route. Toutes les expertises qui ont été faites démentent cette thèse fantaisiste. C'est juste un hôpital qui était très mal géré, avec une asepsie qui était quasiment nulle, etc. Je ferme la parenthèse. Elles sont violentées, elles sont maltraitées pendant des années. Vous avez des gens de la communauté européenne qui travaillent dans l'ombre. Et puis vous avez monsieur et madame Sarkozy de l'époque, Cécilia, qui viennent encore une fois rafler la mise en obtenant leur libération. Mais à ce moment-là, Kadhafi, qui mesure tout le profit qu'il peut tirer de cet acte, eh bien dit à Sarkozy, mais en retour, tu m'accueilles à Paris et je veux du XXL. Et il aura du XXL. Sarkozy dira à Moubarak, l'ancien président égyptien, il m'aura tout fait. Un cauchemar.
Réponse donc de Nicolas Sarkozy à Ramayad et justification de l'invitation de Kadhafi.
Elle est secrétaire d'État aux droits de l'homme et c'est parfaitement normal qu'elle assure une conviction sur le sujet que par ailleurs je partage et que j'ai rappelé au président libyen. C'est bien beau les leçons de droits de l'homme et les postures entre le Café Flore et le Zénith. Mais ces postures, elles ont laissé pendant 8 ans ces malheureuses infirmières. Et depuis 5 ans et demi, Madame Bettencourt. C'est bien beau le principe qui consiste à ne pas se mouiller, à ne prendre aucun risque. C'est pas comme ça que je veux défendre les droits de l'homme. Et comment libérer les infirmières si on ne discute pas avec Monsieur Kadhafi?
Une réaction?
Une réaction, c'est très simple. C'est-à-dire que l'histoire franco-libyenne commence avec des mirages et finit avec des mirages. Les mirages que l'on vend dans les années 70 sous Georges Pompidou aux jeunes et brillants fringants colonels. Et le mirage, l'illusion lyrique de ces contrats dont aucun n'entrera dans la réalité.
Eh bien justement, il évoque la nouvelle respectabilité, Nicolas Sarkozy, de Kadhafi et l'opportunité de sa venue pour la croissance du pays, même si on l'aura compris qu'à ce moment-là, c'était stérile déjà.
La vérité, c'est que la France parle à tout le monde à partir du moment où ses interlocuteurs sont prêts à faire le chemin vers la respectabilité. Et par ailleurs, si de surcroît, je peux libérer des gens et gagner des milliards d'euros de contrats pour les ouvriers français et la croissance française... J'aimerais qu'on m'indique pourquoi je ne devrais pas le faire, alors que les autres le font.
Vincent Hugues.
Si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que Nicolas Sarkozy aura beaucoup à se faire pardonner, ce qui expliquera l'ardeur qu'il mettra à anéantir celui qu'il avait accueilli avec tant de mansuétude quelques années auparavant. Et puis la France doit aussi faire oublier sa cécité pathétique par rapport au phénomène des printemps arabes, dont la Libye n'a été qu'un des exemples.
Ben justement, on y reviendra dans un instant dans la suite de Jour J. À tout de suite.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J. Merci pour tous les messages enthousiastes que vous nous laissez au sujet de cette émission. On a laissé il y a un instant le dictateur libyen Kadhafi savourant sa nouvelle respectabilité auprès des puissances internationales. En 2011, ce que l'on appellera le printemps arabe prend racine en Tunisie avec l'immolation d'un vendeur ambulant nommé Mohamed Bouazizi. Vincent Hugeux, c'était quoi le printemps arabe ?
Le printemps arabe, c'est la rencontre entre des jeunesses connectés, socialement déshérités, qui ont l'appel de la liberté rivé à l'âme et des pouvoirs autoritaires, autocratiques à bout de souffle, qui ne tiennent que par la répression et la soumission.
Donc ça a pris, je le disais, en Tunisie. Oui. Ensuite, ça a été une sorte de traînée de poudre dans tous les pays arabes. Donc la Libye n'y a pas échappé, mais ça a d'abord touché l'Égypte.
Oui.
C'est ça. Et ça touchera de façon concomitante, finalement, la Syrie.
Tout à fait. Et le plus frappant, c'est que quand vous regardez, vous écoutez les interviews que Kadhafi accorde à l'époque, notamment aux médias occidentaux, il est prisonnier d'un déni compulsif. Il dit « Mon peuple m'aime, mon peuple mourra pour moi ». En gros, ce vent des printemps arabes qui balaye mes voisins, médiocres, qui n'ont pas vu venir, etc., évidemment épargnera ma Libye.
C'est un réel déni ou c'est un discours de...
Non, il en est absolument convaincu.
Il paraît d'ailleurs que, pour revenir à notre jour J de ce soir, c'est-à-dire la mort de Kadhafi, il paraît que jusqu'au bout, en fait, il a cru qu'il s'en tirerait, quoi.
Il dit à ses tortionnaires, à ses bourreaux, au moment de cette alali, de cette curée, il leur dit « mes enfants, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne savez donc pas discerner le bien du mal, ressaisissez-vous. »
Ouais. Ça explique aussi la personnalité de Kadhafi. La guerre civile, elle éclate à Benghazi, entre donc le pouvoir en place et les rebelles libyens. Le 19 mars 2011, les troupes de Kadhafi entrent à Benghazi pour mater l'insurrection, en fait, Vincent Hugeux.
Oui, c'est ce qui offrira aussi à l'OTAN et aux forces françaises, britanniques, américaines, je dirais, le prétexte de l'opération militaire qui sera fatale au régime, même si, très honnêtement, il est difficile de dire aujourd'hui, sous peine de faire de l'Uchronie, c'est-à-dire de raconter l'histoire qui n'est pas advenue, que, véritablement, Benghazi s'apprêtait à vivre un bain de sang massif. Ce qui est vrai, c'est qu'à ce moment-là, les rebelles reculent, ils sont désorganisés, amateurs, et de fait, les forces de Kadhafi reprennent du poil dans la bête et menacent Benghazi, il n'y a pas de doute.
Kadhafi a profité de la nuit pour lancer ses troupes à l'assaut de Benghazi, avec tout d'abord un pilonnage de son artillerie, canons et fusées Katyusha, les orgues de Staline, et ceci sur le centre-ville même, où de violentes explosions ont été entendues, dont une juste à côté du siège des insurgés. Les attaques aériennes se succèdent et un bombardier a été abattu par la DCA rebelle.
Bon, là, ça rigole pas, et l'OTAN est déjà sur le coup.
Oui, puisque très vite, en fait, on obtient la caution des Nations Unies. C'est-à-dire qu'il y a une résolution, la résolution 1973, qui établit une zone d'exclusion aérienne, on appelle no-fly zone en bon français, et qui autorise des bombardements. Et c'est là que vont entrer en piste les bombardiers américains, britanniques et français.
Des Mirage 2000D de Nancy, des Rafales de Saint-Dizier sont chargés justement d'empêcher tout mouvement suspect des blindés de l'armée du colonel Kadhafi. Dans le ciel de Benghazi et sa région, des patrouilles de Rafales et de Mirage français appliquent strictement l'un des autres volets de la résolution de l'ONU, c'est-à-dire qu'ils sont là pour se dresser contre la menace libyenne venue des airs. Les pilotes de l'armée de l'air ont reçu l'autorisation d'ouvrir le feu.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe à Benghazi, là ? Comment est la ville à ce moment-là ?
Alors, Benghazi, c'est vraiment le bastion, c'est le fief de la rébellion. C'est une ville qui a toujours été rebelle, qui est très très éloignée géographiquement de Tripoli. On n'est pas très loin de la frontière égyptienne, tout à l'est du pays. Et c'est une ville qui a toujours cultivé son particularisme. Si vous voulez, la Libye, grosso modo, c'est trois grandes régions. La Tripolitaine autour de Tripoli, la Cyrénaïque à l'est autour de Benghazi, et ce qu'on appelle le Faisan, c'est-à-dire la partie désertique du sud. Et il y a là des personnages dont certains ont servi avec loyauté le régime Kadhafi, qui fédèrent cette opposition. Tout part, comme souvent, d'une étincelle, à savoir un avocat qui défendait des familles déshéritées, qui est arrêté, sa maman est brutalisée par les forces spéciales, et très vite, vous avez des gens qui se réunissent pour le soutenir près du tribunal, près du siège de la police, et l'énorme erreur tactique, c'est que la répression est implacable et qu'il y a très vite mort d'homme. Et là, la colère monte, elle enfle, et on s'aperçoit qu'au fond, ces forces tant redoutées, eh bien, elles peuvent aussi reculer. Même si, comme on le disait à l'instant, le sort de la bataille n'était pas du tout acquis, puisque il y a un spécialiste des agences de renseignement américains qui écrit en mars-avril 2011 « Kadhafi finira par l'emporter ».
Pourtant, ça a été donc la chute de Kadhafi. Vous faisiez allusion à la cécité, il y a un instant, du président Nicolas Sarkozy, qui s'est exprimé. Hein. Il avait donc, rappelons-le, échangé une poignée de main avec Kadhafi devant l'Élysée en 2007. D'ailleurs, Kadhafi qui avait le poing vers le ciel. Il déplore donc son manque de prévoyance concernant le début de la révolution arabe.
Je m'en voulais de ne pas avoir vu l'affaire des printemps arabes. Ben Ali renversé, Moubarak renversé. Et on voit ce fou de Kadhafi dire « Je vais faire couler des rivières de sang à Benghazi ».
Ce fou de Kadhafi.
Ce qui est frappant, c'est que là, Nicolas Sarkozy, il faut être équanime et lui reconnaître ce mérite, se livre à une très rare autocritique. Mais d'une certaine manière, c'est de l'autocritique instrumentale, car elle a vocation à justifier une volte-face qui reste quand même assez ébouriffante.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Georgie qui vient de vous emmener au cœur du printemps arabe qui aura vu, entre autres, la chute de Muammar Kadhafi, mort lynché le 20 octobre 2011, puisque c'est notre jour J du soir. Le lendemain, non pas le jour même, comme je l'ai dit il y a un instant, le lendemain, Alain Juppé, alors ministre des Affaires étrangères, prend la parole.
C'est un événement de portée historique pour la Libye. C'est la fin de plus de 40 ans de dictature. Et de ce point de vue, nous nous réjouissons de voir que la Libye est libre, enfin libre, de cette tyrannie qui l'a oppressée pendant tant d'années.
Alors, on est en 2011, nous voici en 2021. Vincent Hugeux, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la situation libyenne ?
Eh bien, la Libye d'aujourd'hui est le théâtre de la vengeance posthume de Kadhafi. C'est-à-dire qu'il avait prophétisé le chaos, dans l'hypothèse où les Occidentaux le lâcheraient et a fortiori l'anéantiraient, eh bien c'est effectivement le chaos. Alors on nous explique qu'il y aura des élections générales le 24 décembre, on a le droit surtout ce jour-là de croire au Père Noël, mais évidemment il n'y aura pas d'élection présidentielle, évidemment la Libye est déchirée, elle retrouve toutes ces lignes de fracture à la fois régionale, identitaire, communautaire, voire tribale, et elle est le jouet une sorte de guerre par procuration, ce que les Britanniques appellent une proxy war, puisque vous avez des mercenaires russes, turcs, syriens recrutés par les Turcs, etc. etc. Et vous avez surtout une opposition frontale, stérile, un peu comme deux boxeurs saoulés de coups qui sont incapables de donner l'uppercut fatal, entre le général Khalifa Haftar, maître de l'Est du pays, qui a vainement essayé de conquérir Tripoli, et un pouvoir prétendument reconnu par la communauté internationale, mais d'une certaine manière, là où il se trouve aujourd'hui, du fond de sa tombe du désert, je pense que Kadhafi doit sourire en voyant à quel point il a légué une Libye ingouvernable.
Libye qu'il était... Alors, autant la monarchie, vous le disiez d'ailleurs, autant d'Idriss, c'était déjà une situation déplorable. Est-ce qu'on peut espérer un jour, pardonnez-moi de vous avoir coupé la parole, mais est-ce qu'on peut espérer un jour voir la Libye en paix? On a l'impression que c'est sans cesse un...
Comme je refuse par principe philosophique l'essentialisme, la malédiction, le déterminisme historique, j'ai envie de vous répondre oui. Mais le devoir de lucidité me commande de vous dire que ce ne sera en tout cas pas de mon vivant.
D'accord. Revenons donc à ce projet qui était celui de Kadhafi, de réunifier finalement un pays. Les fractures, elles datent de quand ?
Mais en fait, toute l'histoire de la Libye qui a été aussi le siège d'assaut d'à l'époque romaine, grecque, ottomane, etc., etc. La Libye n'a jamais constitué une véritable patrie unifiée.
C'est ça.
Ça a toujours été la coexistence de trois grandes entités géographiques, celles que je rappelais tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que la constitution monarchique de ce vieux roi contemplatif et fatigué Idriss, elle reconnaissait une grande autonomie administrative et politique aux trois régions.
Vous parliez...
Donc, pardon, une petite lueur d'espoir. S'il y a un jour une possibilité de sortir de cette ornière, c'est parce qu'on a retrouvé un système fédéral qui, à la fois, préservera une unité même de façade, tout en respectant les tropismes régionaux.
Je voudrais qu'on revienne aussi sur la chute de Kadhafi. Il l'avait un peu prophétisé aussi dans ses écrits.
C'est-à-dire que c'est absolument fascinant de lire ses ouvrages. Alors, j'ai fait un sort à ce fameux livre vert, mais sur la psyché de Kadhafi, il est beaucoup plus fructueux et fécond d'aller lire ses écrits et ses nouvelles, qui sont parfois déroutantes, mais il y a des visions dantesques autour de la mort, de la violence, de la foule. Il y a notamment un passage que je cite dans mon bouquin où il s'imagine pourchassé par une foule qui le hait. Et là, il y a quelque chose qui est absolument sidérant dans cette sorte de préscience inconsciente, vraisemblablement dans son propre esprit, de ce que pourrait être l'épilogue tragique et spectaculaire de son long règne de plus de quatre décennies.
Voilà, votre livre, évidemment, qu'on conseille à nos auditeurs. Je voudrais qu'on revienne sur un visage aussi, une personnalité qui a compté vraiment dans les relations entre la France et la Libye, et notamment avec Kadhafi, c'est Bernard-Henri Lévy.
Et oui, parce qu'on écoutait là Alain Juppé, qui, comme tout acteur qui ne croit pas à son rôle, est assez mauvais quand il se réjouit. Parce que lui, ayant quand même une vraie culture géopolitique, sait que tout ça ne résout rien. Et il sait aussi qu'à un moment donné, lui, ministre des Affaires étrangères, titulaire du Quai d'Orsay, avait moins d'influence sur Nicolas Sarkozy que Bernard-Henri Lévy. Qui va chercher les animateurs de ce fameux Conseil national de transition de Benghazi, les emmène à l'Élysée, incite Sarkozy à reconnaître de manière hâtive et sans doute précipitée ce semblant de pouvoir rebelle, c'est Bernard-Henri Lévy, qui est toujours animé, comme dans toutes ses causes, vraisemblablement par des élans sincères, mais qui a parfois beaucoup de mal à mesurer le poids de réalité locale, et son idéalisme se heurte souvent, quitte à se fracasser dans le mur du réel.
Où en est la famille Kadhafi aujourd'hui? Ils sont tous à l'étranger. Hein.
Alors, je me suis amusé à faire un petit chapitre justement sur ce que j'ai appelé les enfants gâtés, enfants perdus de Kadhafi. Alors, ils sont pour certains morts et enterrés, pour d'autres en prison. Vous en avez qui sont réfugiés à Oman, après avoir été accueillis en Algérie, puis expulsés sur les instructions du défunt président algérien Bouteflika. Donc, ils sont un peu dispersés. Et ce qui était très, très impressionnant, c'était au moment de la chute de Kadhafi, quand on est allé, les reporters qui étaient sur place, visiter les villas de certains des enfants. Il y a un contraste entre la relative austérité
du
fils de berger bédouin qui était resté Kadhafi et ce côté... même pas glamour, mais clinquant d'un mauvais goût universel. Et en plus, certains de ses fils se sont distingués aussi par leur violence. L'un cognait son épouse, l'autre avait choisi l'élite du sport mondial pour devenir le meilleur footballeur de l'histoire de l'Afrique, sans jamais y parvenir. Il avait quand même réussi à cirer le banc de deux clubs italien pendant quelques mois. Son père était actionnaire de Fiat, ça pouvait aider. Enfin voilà, donc c'est aussi l'histoire d'une grande débandade familiale.
C'est intéressant ce que vous nous dites sur la façon dont ont vécu les enfants de Kadhafi. Il paraît aussi que quand il plantait sa tente Kadhafi un peu partout, même dans ses déplacements officiels, on va dire que c'est comme ça, en fait il dormait à l'hôtel.
Alors ce qui est très drôle, c'est par exemple le palais de Marigny. Il plante sa tente, mais la tente a une signification politique. C'est-à-dire, je vis selon mes normes, selon ma tradition bédouine, où que j'aille, mais ça ne m'empêche pas. Alors, la tente entre nous, climatisée, télévision, satellite, etc. Et j'ai appris effectivement qu'il était allé passer la nuit dans le bâtiment de l'hôtel Marigny, qui était juste à côté de la tente. Ça faisait partie du show Kadhafi permanent.
Merci beaucoup, Vincent Hugeux.
Merci à vous de votre invitation.
J'envie vos élèves à Sciences Po. Je conseille également vos livres, Kadhafi sorti en poche aux éditions Tempus Perrin, et on vous recevra prochainement pour le livre Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme postcolonial aux éditions Perrin également. Merci à vous pour cette heure passée en notre compagnie et en celle des auditeurs.